on commence ce journal des sciences du vendredi avec la découverte d'une exoplanète géante qui gravite autour d'une toute petite étoile naine.
Oui, la découverte d'une nouvelle exoplanète, hein, ça n'a rien d'exceptionnel en soi, c'est assez fréquent, mais cette étude, parue aujourd'hui dans Science, surprend les astronomes. Il est question de, l'exoplanète GJ5312b, qui est aussi grosse que Jupiter, mais qui gravite autour d'une petite étoile naine qui fait à peine un dixième de la masse du Soleil. Une telle différence de masse entre les deux astres, ça contredit la théorie classique sur la formation des planètes. Habituellement, le modèle classique, c'est celui du modèle d'accrétion du noyau, c'est-à-dire un cœur de roche qui se forme par accrétion dans le disque protoplanétaire. Mais là, le rapport de masse entre les deux objets ne permet pas de valider ce modèle. L'équipe américaine favorise un autre scénario, moins communément admis, celui du modèle d'instabilité gravitationnelle. Alessandro Morbidelli, astronome et directeur de recherche CNRS à l'Observatoire de la Côte d'Azur.
Les auteurs concluent que le seul moyen de former une planète si grande par rapport à l'étoile, c'est un deuxième mode de formation des planètes, qui est les mécanismes d'instabilité gravitationnelle. En effet, si les disques sont suffisamment massifs et surtout suffisamment froids, ce qui peut être facilement le cas autour d'étoiles naines, ben les gaz peuvent s'agglomérer par l'effet de sa propre gravité. Ceci peut avoir lieu seulement à certaines distances de l'étoile, et donc ça forme des boules de gaz autogravitantes sans les noyaux solides au centre. Et ensuite, ces boules de gaz peuvent migrer dû à des interactions gravitationnelles avec les disques pour atteindre une orbite relativement proche de l'étoile centrale comme celle de la planète observée. Donc selon les auteurs, c'est le mécanisme à privilégier pour ce type de planète. Bon, c'est un mécanisme que personne n'avait jamais exclu, simplement les études avait montré qu'il faut des conditions, plusieurs conditions réunies pour que ce mécanisme marche, mais notamment des disques très très froids pour lesquels la chaleur est évacuée très vite. Pour les étoiles faibles, effectivement, tout est plus froid et les disques aussi optiquement plus fins et donc le refroidissement peut être plus rapide et donc effectivement les conditions pour l'instabilité gravitationnelle pourraient être bien réunies.
En bref, l'atterrisseur InSight sur la planète Mars a détecté d'inhabituelles pulsations magnétiques.
Alors, il n'y a pas encore d'études publiées, mais la NASA a présenté ses premiers résultats lors du dernier colloque européen de planétologie et de la Société américaine d'astronomie. Alors, depuis novembre 2018, le magnétomètre de InSight a pour mission l'étude des profondeurs de la planète. Il révèle que sur sa zone d'atterrissage, Mars a un champ magnétique puissant et que des impulsions magnétiques se produisent la nuit. Pour le moment, on n'explique pas ces variations magnétiques, mais une des hypothèses avancées, elle serait qu'elles indiqueraient la présence d'une couche électroconductrice enfouie sous la surface, en d'autres mots, de l'eau en grande quantité, un grand réservoir similaire aux nappes phréatiques terrestres.
Deuxième sujet de ce journal des sciences, une étude qui est parue dans la revue Philosophical Transactions de la Royal Society montre que contrairement aux idées reçues, les poissons ressentent de la douleur.
Les biologistes de l'université de Liverpool viennent de prouver que les récepteurs du système nerveux des poissons réagissent à la douleur de la même façon que les mammifères. Alors jusqu'à présent, on pensait que les réactions instinctives qui nous font fuir une expérience douloureuse, on pensait que ces réactions n'appartenaient qu'aux mammifères. Cette étude montre l'inverse. Les poissons rouges, par exemple, lorsqu'ils reçoivent un choc électrique près de leur réservoir à nourriture, ils cessent de s'y rendre pendant un certain temps. Les chercheurs ont également montré que les poissons sont sensibles aux antidouleurs après un choc. Un poisson zèbre retrouve une activité normale lorsqu'il est plongé dans de l'eau qui contient un antalgique. Alors cette étude appelle donc à reconsidérer la façon dont nous traitons ces animaux. Georges Chapoutier, docteur en neurobiologie et directeur de recherche émérite au CNRS, pour lui, rien de surprenant dans ce travail.
Le groupe des vertébrés est un groupe extrêmement homogène. Si vous voulez, sur le plan anatomique, entre les différents groupes de vertébrés, c'est-à-dire les poissons, les batraciens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères, il y a d'énormes homologies. Ils se ressemblent beaucoup. C'est un groupe extrêmement homogène. Extrêmement homogène aussi sur le plan cérébral. Les cerveaux de tous ces animaux, poissons, etc., jusqu'à mammifères et oiseaux, se ressemblent énormément. Presque tous les animaux ont des mécanismes de susception, y compris beaucoup d'invertébrés, mais ils sont assez homogènes chez les vertébrés. Mais ce qui est intéressant, c'est comment la nociception est vécue, je voudrais dire. Quel est le ressenti cérébral de la nociception? En d'autres termes, peut-on considérer qu'il y a une perception consciente de la douleur? Or, tous ces animaux-là, depuis les poissons jusqu'aux mammifères et aux oiseaux, si j'ose dire, ont des structures cérébrales très proches. Tous ont ce qu'on appelle un système limbique, c'est-à-dire un système qui maîtrise les émotions, qui gère les émotions. Tous ont un cortex cérébral, c'est-à-dire un système qui gère la cognition, la connaissance. Donc, la thèse que je vous propose, c'est qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre tous ces animaux dans le vécu de la douleur. Sur le fond, il n'y a pas de différence fondamentale.
Et cette semaine, tout au long de la semaine, dans le Journal des Sciences, nous avons parlé d'un certain nombre de sujets, notamment de deux Iborisov, la première comète interstellaire de notre système solaire, qu'il est en train de la traverser en tout cas. Nous avons vu que les moustiques OGM ont une descendance plus robuste, que l'antibiorésistance s'aggrave chez les animaux d'élevage et que l'extinction des Néandertals aurait pu être causée par des troubles ORL, mais également dans l'actualité scientifique de la semaine, Natacha, en ultra bref.
En ultra bref, l'Institut d'études géologiques des États-Unis a apporté une nouvelle datation de la formation du Sahara. Après l'analyse géochimique de poussière du désert, les chercheurs affirment qu'il se serait formé il y a au moins 4,6 millions d'années. Pour les géologues, cette datation fait débat depuis des années. Mercredi, dans Nature, des archéologues anglais ont apporté la preuve que les nourrissons consommaient du lait animal dès le néolithique. Ils ont analysé les résidus que contenaient de petits vases en céramique qui dataient de moins 1500 ans et que l'on avait retrouvés dans des tombes d'enfants. Leur analyse chimique a révélé des graisses animales. Ce sont donc les plus vieux biberons préhistoriques. Et enfin, une bouteille de champagne qui se débouche produit des ondes de choc supersoniques. Une équipe française a filmé la fuite rapide de gaz sous haute pression avec une caméra à haute vitesse. Les images mettent en évidence la création de disques de Mach 2. C'est deux fois la vitesse du son. On observe ces mêmes disques chez les avions de chasse.
C'est pour ça que vous faites tellement d'expériences aérodynamiques chez vous, Natacha. Allez, on termine ce journal comme chaque semaine par notre rubrique de sciences improbables. Et bien la semaine dernière, nous vous apprenions que les chats avaient conscience de certaines lois de la physique. Aujourd'hui, nous vous apprenons que les chats s'attachent aux êtres humains et que ce ne sont pas ces petites créatures mesquines, froides et désagréables.
Mais c'est ce que montre une étude parue dans Current Biology. On avait complètement sous-estimé les capacités socio-cognitives du chat. Des chercheurs américains ont donc observé la relation qu'entretenaient 38 chats avec leur maître lorsqu'ils sont enfermés dans une pièce puis lorsqu'ils sont séparés. Pour 65% d'entre eux, les signes de stress disparaissent dès que leur maître réapparaissent dans la pièce. Donc l'étude l'affirme, les chats affichent les mêmes styles d'attachement que les bébés et les chiens.
C'était évident.
Les chiens ne sont pas des animaux froids et ingrats.
Gaston, si tu m'écoutes, je reviens dans pas longtemps, ne t'inquiète pas. Papa revient.